C'est ça. Donc ça change au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Non, je suis religieux, moi.
Au cul de l'église.
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 De l'église.
Baptiste Françoise.
On y est tous là, à Sainte-Afrique, bien sûr, à la radio de Sainte-Afe. Vous venez nombreux, nombreuses, on vous attend.
Au cul de l'église.
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 Du cul de l'église, ouais.
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ?
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Prêt, les gars ? Ouais.
Allez, au cul de l'église.
On est parti
pour l'émission qui va tuer du Dieu, le cul de l'église.
Bonsoir et bienvenue au cul de l'église. Enlevez vos moufles, installez-vous devant la cheminée, enfoncez-vous confortablement dans votre canapé et laissez-vous réchauffer par la bonne parole de nos joyeux prêcheurs qui grelottent dans un studio glacial. Mais on est motivés.
Mais grave, comme d'hab.
Bonsoir.
Réchauffé de l'intérieur, mais pas de l'extérieur.
Allez, avec nous ce soir, malgré la grisaille de l'hiver, il continue d'arborer un plumage éclatant de vert et taché de rouge par le sang des boursicoteurs. Qu'il attaque à grands coups de bec, Kakapo est avec nous.
Et bonjour.
Bonsoir, Kakapo.
Ça va.
T'es de tout de rouge vêtu ce soir.
Et ouais, avec
bandana compris.
Le pull Radio Sainte-Afrique.
Exactement.
Et tu vas nous parler du CAC 40, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Bien, bien.
Tout à fait.
Kakapo 40 ?
Du Kakapo 40. Attention.
Bon, voilà, on commence avec des bons jeux de mots quand même.
Ah ouais.
C'est fin. On est bon.
Non, mais je crois qu'on a la connerie ce soir.
Un autre volatile partage ce territoire radiophonique. Son chant s'éparpille aux quatre coins de la forêt et le rend insaisissable. Essayons de ne pas l'effaroucher et écoutons de plus près. Salut Vince.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je ne suis pas un oiseau, je le précise encore une fois. Hein. On a tendance souvent à me dire, mais non, rien à voir. Je les étudie.
Et alors, c'est quoi ta mélodie du soir ?
Ma mélodie du soir, c'est biodiversité, peine, justice, police, lutte, machin, voilà.
Plein de trucs, quoi.
Des sujets variés.
Ouais.
Il se cache derrière une console couleur de l'arc-en-ciel, le filet à la main, prêt à rattraper les drôles d'oiseaux que nous sommes, c'est Jean à la technique.
Salut. Et bonjour.
Et bonjour.
Comment il va ?
Ça va.
Il a parlé un peu comme moi, c'est bien.
Oh, le top du top.
Nous reste un échappé de la volière, je pensais le trouver à la console, mais il a préféré se rapprocher des micros. Bienvenue Clément.
Salut. Bonsoir Camille, ça va bien ?
Ouais, cool. Et tu nous parles de quoi ce soir ?
Moi je vais essayer de savoir, de vous expliquer ou de parler de pourquoi il faut ou pas détester les journalistes.
Bien. De bonnes paroles.
C'est pour ça qu'il y en a pas à Radio Sainte-Afe.
Putain, mais Clément, attends, t'as pas écouté ma chronique encore. Oh.
Et donc, nous allons commencer l'émission avec Kakapo.
Z doit appartenir à l'ensemble.
Les atomes et les particules encore plus petites.
C.
Proton et neutron.
Moins 0. Z plus 5 sur Z égale 2 dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Minuscule brin d'énergie
et des distorsions dans le tissu même de l'espace et du temps.
Quelle est la condition sur les solutions ?
Selon la théorie des cordes,
il est
les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas !
J'ai pourtant clair.
Kakapo.
Après les gilets jaunes, voici les gilets en or. 57,4 milliards d'euros ont été dépensés en dividendes et rachats d'actions l'année dernière par les 40 plus grandes sociétés cotées en bourse en France.
Bande de gros bâtards.
Établissant un nouveau record absolu. Les salariés et l'investissement sont les grands perdants de ce choix financier. Oui, les entreprises du CAC 40 n'ont jamais autant choyé leurs actionnaires. Selon la lettre Vernimien, pardon, une publication spécialisée des milieux d'affaires citée hier par Les Échos, 57,4 milliards d'euros ont été dépensés en dividendes et rachats d'actions l'année dernière par les 40 sociétés cotées, établissant un nouveau record absolu. Le dernier en date remontait à 2007, juste avant l'éclatement de la crise financière, avec 57 milliards seulement d'euros distribués à l'époque. La performance de 2018 n'est donc pas anodine. Les géants du CAC 40 ont enfin tourné la page de la crise financière. Si la générosité envers les actionnaires explose cette année avec une hausse de 12,8% par rapport à 2017 et surtout plus de 62% par rapport au creux de 2009, 35,3 milliards d'euros distribués aux actionnaires. Cela va de pair avec une forme olympique pour les bénéficiaires des sociétés concernées en 2017, année de référence pour la distribution des dividendes en 2018, qui ont grimpé de 18% en un an. Au total, près de 60% de ces profits ont été redistribués aux actionnaires. Indice d'une année hors norme pour les détenteurs de capital. Chaque société du CAC 40 a acquitté des dividendes l'an dernier, ce qui n'est pas le cas des années précédentes. Mais certaines ont contribué plus que d'autres à ce record. En haut du podium, Total a versé à lui seul 10,1 milliards à ses actionnaires en dividendes et rachats d'actions. En suivant, Sanofi, 4,8 milliards. Puis la BNP Paribas, 3,8 milliards.
Bande de bâtards.
AXA, 3 milliards.
C'était pour mon banquier.
LVMH, 2,8 milliards. L'Oréal, 2,5 milliards. Et Schneider Electric, 2,1 milliards. Ces 7 sociétés représentent à elles seules plus de 50% des sommes versées aux actionnaires par le CAC 40 l'an dernier. Seulement 5,3% des bénéficiaires sont redistribués aux travailleurs.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ?
En pleine crise des Gilets jaunes, une telle débauche d'argent scandalise à gauche. On dénonçait un pactole indécent au moment même où le pouvoir a péniblement consenti un plan de mesures pour le pouvoir d'achat de 10 milliards d'euros qui ne mettra pas ou que très peu à contribution les entreprises et que le moindre coup de pouce au SMIC a été refusé. Tandis que le bénéfice et les dividendes battent des records. Le versement de primes est laissé au bon vouloir des sociétés. Et les principales mesures consistent à des défiscalisations, c'est-à-dire qu'elles seront financées par les contribuables et non par les entreprises. Alors qu'elles ont un rôle fondamental à jouer pour la réduction de l'inégalité, pointe l'ONG Oxfam, à l'origine d'un rapport l'an dernier sur les bénéfices du CAC 40. Selon cette étude intitulée CAC 40, des profits sans partage. Plus de 67% des bénéfices réalisés entre 2009 et 2016 par les principales sociétés cotées en France sont allés aux actionnaires, contre seulement 5,3% aux salariés et 27,3% à l'investissement dans l'entreprise. La tendance n'a pas changé. Les salariés et l'investissement sont toujours les plus grands perdants de ce partage inégal des bénéfices. On rappelle que un partage plus équitable des richesses dans les entreprises, formulé à l'occasion de la loi Pacte, encadrement des dividendes et transparence des écarts de salaire, c'est le nom du pacte, au-delà, cette question cruciale du partage des bénéfices dans les grandes entreprises doit faire l'objet d'un point central dans les grands débats, dans le grand débat national annoncé par Emmanuel Macron.
L'église.
Des sociétés s'endettent pour rémunérer leurs actionnaires. Pour l'instant, cela n'est guère prévu. Signe que le sujet embarrasse. La lettre Verniment anticipe la crise en affirmant que, contrairement au sophisme et au poncif, aucun groupe n'a dû réduire ses investissements pour verser un dividende. Aucun n'a dû s'endetter au-delà du raisonnable pour verser un dividende. Une assertion à laquelle les économistes atterrés ont déjà répondu sur le long blog, sur leur blog l'an dernier. Dividende et rachat d'actions représentent 19% de l'excédent net d'exploitation. L'ENE, en résumé. Les profits diminués de l'amortissement des investissements passés en 1990, puis 39% en l'an 2000 et 70% aujourd'hui. Y écrit le chercheur à Lille. Autant dire que, de plus en plus, les entreprises sont contraintes de s'endetter ou de vendre leurs outils de production afin de rémunérer leurs actionnaires. Ainsi, en 2011, alors que les profits avaient baissé de 10%, les entreprises ont augmenté les dividendes de plus de 15% et sacrifié du même coup leur capacité à investir en la réduisant de plus de 38%. Du point de vue des actionnaires, l'entreprise n'a qu'une fonction, créer du cash, rappelle de son côté un membre des économistes atterrés. Dans cette logique, investissement et dividendes en viendraient presque à se confondre puisque, selon cette vision, l'intégralité de la trésorerie qu'elle génère appartient aux actionnaires. Qu'elle soit redistribuée ou réinvestie dans l'entreprise, c'est toujours du patrimoine de l'actionnaire, décrypte cet enseignant-chercheur à Bordeaux. Or, non seulement cela est une erreur sur le plan juridique, mais de nombreux travaux aux États-Unis ont montré que la hausse des dividendes et des rachats d'actions a bien eu pour effet de rationner les capacités de recherche-développement des entreprises. Un petit exemple pour dire que les dividendes et les licenciements font bon ménage. Le groupe bénéficiaire du CAC 40, repéré par l'UMA, ils ont procédé à des licenciements de 15 000 postes dans leur effectif en France. Ont tous distribué des dividendes à leurs actionnaires en 2018. Ces entreprises sont Airbus, avec 470 postes supprimés et 1,2 milliard à ses actionnaires. AXA, avec 160 postes et 3 milliards distribués aux actionnaires. BNP Paribas, avec 5 000 suppressions et 3,7 milliards aux actionnaires. Michelin, avec 1 500 postes et 712 millions. Le groupe PSA, 2200 postes et 419 millions à ses actionnaires. Bon allez, j'arrête là parce que la liste, elle est vraiment très 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 longue.
Le soir au tribunal, l'éveil des jurés est plutôt matinal. Tout le peuple du pays des merveilles se trouve ici, en qualité de témoin. Motif de la réunion, quelqu'un aurait volé un bout de tarte. La reine avait enfin trouvé son prétexte. À présent, il fallait juger les innocents avant qu'ils ne s'échappent. Le lapin, qui portait la charge de maître de cérémonie, avait mis l'effort pour se mettre en évidence. Pourtant, il n'avait pas de quoi être fier. À deux pas d'Alice, il faisait mine de l'ignorer. Quelle truffe de lâche. Le lapin avait offert une tarte à un valet après en avoir tartiné la robe de la blonde. Mais voilà que le lendemain, la reine avait décrété que la disparition d'un bout de tarte était devenue un crime de lèse-majesté. Ah! Mesdames, messieurs, les enfants, vous avez compris. Notre amoureux lapin est allé jusqu'à faire accuser Alice d'un crime qu'elle n'avait donc pas commis, dans le seul but de mieux la délivrer. Comme si l'amour justifiait tout. Mais au moment du retournement de situation,
ce moment où les cartes devaient se retourner contre la majesté afin de couronner la patte blanche qui les avait mises au service de la reine. Et là, j'aimerais avoir votre attention, car voilà ce qui s'est réellement passé. Les cartes devaient se retourner contre la reine après un signal du lapin. Elles obéirent à ses ordres au pied de la lettre, ce qui n'était pas prévu. Elles se sont retournées alors qu'elles faisaient déjà face à la reine. Elles se sont donc retrouvées face à face avec Alice. Mais avec la reine couronnée et le bourreau dans le dos, les cartes n'ont pas fait les malignes. Et puis quand la patronne cria « La blonde est coupable, qu'on lui coupe la tête !» Ils repoussèrent le complot du lapin à plus tard. Et soudainement, sans crier gare, les cartes sautèrent sur Alice pour la mettre en état d'arrestation. Mais la belle avait retrouvé sa taille, et les cartes, qui n'avaient plus de bleu que leur hauteur, s'empilèrent sur ses chevilles. Puis, elle disparut. Et voilà.
Merci Kakapo pour ton analyse.
Mais de rien.
C'était quoi ta musique?
Et du coup c'était Ibrahim Malouf avec Oxmo Puccino.
Ibrahim Malouf, le grand trompettiste quoi.
Voilà exactement, ils ont fait un album tous les deux et du coup je crois qu'il s'appelle Au Pays mais c'est pas sûr.
Et pour revenir sur ton papier, Kakapo, tu parlais de la BNP un peu là.
Oui.
Et voilà, juste pour signaler que tu parlais, je sais plus, je crois, ils ont fait 3 milliards, ils ont reversé
BNP,
2 ou 3 milliards
coup,
à leurs actionnaires l'année dernière. Et ils ont fermé, et donc j'ai une petite anecdote à raconter.
3,8
milliards aux actionnaires BNP. Et donc j'ai une petite anecdote, puisque la BNP à Saint-Afrique, moi je suis client de la BNP, je suis navré. Hein, mais la BNP a fermé à Saint-Af, tu vois, genre du jour au lendemain. Enfin, un jour, j'ai reçu une lettre. Votre agence va fermer hier.
Ah,
d'accord.
Ouais.
Bon, bah voilà. Donc, du coup, l'agence a fermé hier, va fermer hier en tout cas. Et donc, en fait, c'est devenu un espace conseil avec une porte fermée, avec un petit interphone où tu bipes pendant 10 minutes pour que quelqu'un vienne t'ouvrir pour que tu puisses déposer tes chèques ou quoi. Et c'est assez rigolo parce que du coup, j'étais à Grenoble il y a un mois ou deux. Et j'avais besoin d'aller à la banque pour tirer parce que j'avais plus de carte bancaire. Bref, on va pas raconter ça live. Mais du coup, je trouve une BNP, je rentre, je donne mon identité à la nana. Je fais bon, voilà, je voudrais faire un retrait. Et la nana, elle me fait vous venez de Saint-Afrique, c'est marrant. Moi, j'habite, je vis à 20 km. Je sais plus où elle m'a dit, Mont-Laurent, un truc comme ça, tu vois. Et je fais vous travaillez à Grenoble. Et là, elle me regarde, elle me fait ouais. Et du coup, je fais ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils vous ont foutu à Grenoble comme ça sans vous demander quoi. Et du coup, en fait, la meuf, elle veut juste travailler à Saint-Af et en même temps, ils ferment à Saint-Af. C'est pas à défaut de travailleurs ni à défaut de thunes quoi. C'est juste vraiment une volonté de fermer tous les trucs qui leur coûtent un tout petit peu plus d'argent pour pouvoir reverser encore un petit peu plus d'argent aux actionnaires.
Et ça arrive pareil aussi à la Poste du coup, parce qu'ils veulent fermer de plus en plus de petits bureaux de poste.
Et ouais, grave.
Et pour tout centraliser à un seul endroit.
Voilà.
Et c'est dans tous les domaines, en fait, ça arrive. Enfin, voilà.
Génial.
Merci, le CAC 40.
Allez, après les nouvelles de la bourse, nous continuons notre journal.
Vous savez con qui te metiste? Te voy a sacar hasta el último último centavo, hasta la última propiedad. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo.
Bonsoir, il est 20h20, vous écoutez les désinformations de France Intox. Nous sommes le jeudi 10 janvier et l'épidémie de grippe ne s'est toujours pas manifestée. Drame du changement climatique, nombreux sont les spécialistes à s'en inquiéter.
Alors pourquoi la grippe se fait-elle si discrète et sera-t-elle probablement moins forte cette année? D'abord parce que la météo de ce début d'hiver est douce, or le virus de la grippe aime le froid.
Et il n'y a pas d'épidémie de grippe en France, contrairement à l'an dernier où elle avait atteint son pic à la même date et tué 13 000 personnes dans l'hiver. Là, le cocktail fièvre, courbature, maux de tête semble nous épargner.
La courbe des malades augmente faiblement, alors que les deux dernières années, elle avait connu en décembre-janvier un pic très impressionnant. Aujourd'hui, il n'y a donc même pas officiellement d'épidémie.
L'épidémie de grippe n'a toujours pas démarré. 63 cas de grippe pour 100 000 habitants. L'an dernier, c'était 8 fois plus à la même période.
Alors, pourquoi ces inquiétudes? Eh bien, parce que cette absence d'épidémie a des conséquences économiques non négligeables. Les autorités médicales craignent de rencontrer le même fiasco qu'en 2009 avec le virus H1N1. Des milliers de doses de vaccins non utilisées envoyées en Afrique pour écouler les stocks avant qu'ils ne périment. Une menace certaine pour le budget de la sécurité sociale, qui doit de plus faire face à la baisse de mortalité liée à un hiver trop clément. Car les premières victimes de la grippe, ce sont bien entendu les personnes âgées. Pour chaque décès, c'est une place de plus qui se libère en soins palliatifs, c'est une retraite de moins à financer. Grâce à un travail de longue haleine pour déstructurer l'hôpital public, l'espérance de vie est de nouveau en baisse et les inactifs pèsent moins sur le déficit. Mais le réchauffement climatique pourrait perturber ces efforts et fait craindre une nouvelle crise économique. Conséquence inattendue de cette douceur hivernale, faute de grippe, c'est une épidémie de jaunisse qui envahit nos rues. Une couleur jugée trop printanière aux yeux de notre gouvernement, qui estime qu'en cette saison, il est de bon ton de se montrer morose et résigné, et que trop d'activité cérébrale pourrait nuire à l'équilibre de notre société. Ainsi, le ministère de la Santé nous appelle à la plus grande prudence. Ne prenez pas le risque d'attraper un rhume de cerveau. Ne sortez pas, ne vous réunissez pas à proximité des ronds-points, ne manifestez pas dans les rues. Évitez les cagoules qui sont de vrais nids à microbes. Bref, restez bien au chaud chez vous à écouter les messages rassurants de notre bien-aimé président de la République.
Il se compare à Robin des Bois, évidemment, à tous les chevaliers qui défendent le pauvre, le faible, la veuve et l'orphelin. Or, si la contestation est toujours la bienvenue en démocratie, elle n'exonère jamais du respect de certains devoirs. Or, en République, jusqu'à nouvel ordre, il y a des lois que l'on ne piétine pas impunément.
Des lois qui existent pour être respectées, à commencer par la plus élémentaire de nos traditions judéo-chrétiennes. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez la gauche. Cependant, attention aux erreurs d'interprétation, nous parlons bien ici de la joue gauche. Répliquer par un uppercut à la mâchoire, c'est faire preuve d'un évident manque de civisme et de culture générale. Des manifestants agressifs et dangereux, donc, qu'il devient de plus en plus difficile d'approcher. Notre courageux envoyé spécial n'a pourtant pas hésité à aller les interviewer. C'est la revue des presses Yves Mafoy pour France Intox.
Nombreux sont les témoignages qui nous parviennent de gens qui sont excédés de cette situation où certains s'octroient des droits et imposent leur volonté à une majorité qui aujourd'hui subit. Il faut que cela cesse.
Je suis déjà à l'antenne. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Il semblerait que, suite à un incident technique, la revue de presse d'Yves Mafoy ait été inversée avec une interview du sous-préfet de l'Allier, qui, lui, s'exprimait bien entendu contre ce mouvement. Ah, on me signale que cette interview a fait immédiatement réagir les auditeurs qui nous suivent en direct. Quelques réactions à chaud par notre correspondant de Niort.
C'est une très mauvaise surprise sur la place du marché des Halles.
Ah bon ?
Et ce n'est pas le prix des poireaux qui choque Marilène, mais bien la petite phrase de Michel.
C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Ça me fait mal au cœur, là. Moi, je suis triste, là.
quand il dit ça.
Même réaction chez Christian et Christiane.
Moi, ça me choque et c'est pas très intelligent. C'est des phrases polémiques qui n'ont pas de fond. C'est un rat des pâquerettes, je trouve.
Il est un peu à la limite du pitoyable.
Enfin, c'est vraiment une phrase qui n'est pas honnête.
Oui, une erreur technique de notre part qui a provoqué une certaine confusion. Encore une fois, nous présentons toutes nos excuses à nos auditeurs qui ont pu confondre les paroles d'un représentant légitime du peuple avec celles d'un démagogue manipulant l'opinion publique dans le seul but de servir ses intérêts personnels. Et nous terminerons ce journal avec une rubrique Carnet Rose. La société se mondialise et le cinéma pornographique n'est pas en reste. Le dernier film en date fait beaucoup parler les sexologues à qui je laisse la parole.
80 secondes avant ou après la besogne du matin pour vous parler d'une invitation au voyage aujourd'hui. Voyage au bout de l'anus. C'est là, au cœur de ce tube, qu'on a poussé un cri de fascination, écrit la journaliste Catherine Malaval.
On est sur un espèce de partage du monde. Les Américains n'ont pas réussi à pénétrer le Chinois, notamment parce qu'il y avait cette fameuse muraille de Chine. Muraille de Chine qui a en fait permis quand même une émergence de grands champions. Et l'Europe, qui aujourd'hui est beaucoup plus pénétrée par des géants plutôt américains.
Je crois que le problème, c'est comme toujours, c'est le nerf de la guerre. A-t-on la capacité en Europe pour équiper avec du matériel européen sûr, etc. Je crois que la réponse, elle est non. Donc à partir de là, on a un vrai sujet. Et je crois que le problème, si on remonte un peu en amont, alors on a aussi nos armes, hein, on a nos armes nous, qui sont des armes de régulation, etc. Qu'on était en capacité, avec de la puissance un peu faible, d'arriver malgré tout à mettre en place
un peu faible. Des on a, cadres normatifs. Tout le monde s'est dit, on a quand même essayé, on rentre dans la bataille avec des petites armes 40 ans après, comme si on débarquait. On n'a pas réussi à avoir des leaders hégémoniques européens. On s'est quand même complètement fait pénétrer par des acteurs américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on va rester du côté des Américains? Est-ce qu'on peut être pénétré aussi par des Chinois? Est-ce que c'est l'occasion potentiellement d'avoir des leaders européens? On a l'impression que non.
Et bon, après, il faudrait, je pense aussi, pas tomber dans une sinophobie caricaturale. Et la question, c'est aussi celle, justement, de l'éducation, aussi, je dirais, du personnel politique. Voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision de hauteur. Il n'y a pas des méchants Chinois, des gentils Américains. Mais la question, c'est que fait l'Europe face à deux géants qui sont en capacité de le prendre en étau.
Il est 20h26 et vous êtes à l'écoute du cul de l'église sur Radio Sainte-Afrique. Précisons que les extraits que vous venez d'entendre sont issus de vrais journaux radio. Preuve en est qu'avec un peu de piratage, on peut faire raconter n'importe quoi sur n'importe quel sujet. La suite de notre émission après une plage musicale, restez à l'antenne.
Et surtout en 2019, continuons à recycler pour préserver l'environnement.
Yeah.
Alors c'était un extrait de la BO de Trainspotting.
Et oui.
Et nous affrontons la grippe pour vous parler sur ces micros.
Ouais, c'est clair, c'est ce qu'on se disait en antenne, on se caille les miches dans ce studio là.
Ouais, ça va qu'il y a un petit chauffage.
Et heureusement qu'on a un bon plumage aussi.
Et oui,
le bon plumage fait son affaire. Voilà.
Bon, pour ce qui est du ramage, on va laisser la parole à Vince.
Ok.
Allez, on enchaîne.
Montre-nous.
Il y a des oiseaux sur cette planète, mal depuis l'archéopérique. Il ne semble-t-il pas étrange qu'il s'est attendu tout ce temps pour déclarer la guerre à l'humanité?
Je crois que c'est vous qui êtes la cause de tout cela.
Je n'arrive pas à croire que quelques oiseaux peuvent nous amener la fin du monde.
Je crois que vous êtes le diable. Le diable.
Biodiversité engluée. À l'heure où la communauté scientifique et naturaliste est très inquiète quant à l'effondrement de la biodiversité en Europe, la France réautorise une technique de chasse barbare et non sélective, la chasse à la glu. Interdite sur l'ensemble du territoire depuis plusieurs décennies, cette technique, qui vise principalement les turdidés, donc les grives et les merles, n'a jamais cessé pour 5 départements dans la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-d'Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Vaucluse. En 2014 et 2015, la LPO et d'autres associations avaient demandé l'interdiction de cette pratique moyenâgeuse et destructrice pour la biodiversité. La décision du Conseil d'État a été rendue récemment et la chasse à la glu restera légale dans ces départements car elle serait considérée comme une tradition. Ceci est bien entendu une absurde aberration. Cette année 2018, la plupart des ornithologues français et européens ont constaté une nette diminution des effectifs de passereaux nicheurs sur une grande portion du territoire européen. Chez certaines espèces, ont été constatées des chutes d'effectifs supérieures à 50, 60 ou 80% sur une échelle de 10 à 20 ans. Quand même, quoi. Donc comment le Conseil d'État peut-il justifier pareil choix? De quel droit des personnes qui n'ont aucune compétence en la matière délibèrent sur de tels sujets? La tradition, disent-ils, mais de quelle tradition parle l'État? De cette pratique qui n'a plus sa place face à une érosion de la biodiversité sans précédent ou d'un électorat traditionnel et conservateur qu'il faut toujours plus brosser dans le sens du poil? Car oui, traditionnellement, en PACA, ça chasse dur même. Et ça vote dur aussi, et beaucoup à droite. Peut-être une coïncidence, me direz-vous?
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi!
Lourde peine. Des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme ont été prononcées mercredi 26 décembre à Valence, à l'encontre de 4 personnes, dont une militante du PCF,
ouais,
et un journaliste vidéaste indépendant. Ouais, parce que là, du coup, elle a été condamnée quand même.
Mais comme d'hab. De toute façon, comme d'hab. C'est toujours la gauche qui est condamnée.
Ah, mais oui.
Bon, allez, vas-y.
On en parlait d'ailleurs lors du cul de l'église spécial Happy à Cap Day, soit le 13 décembre dernier. Émission très sympathique et instructive que je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter en podcast sur le site de Radio Saint-Aff. Au passage,
classé, un peu de pub. Ça.
T'as vu ça? Pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi ils retournent, petit résumé des faits. Le 8 décembre, à Valence, dans la Drôme, une bonne centaine de gilets jaunes sont dispersés par des flics à proximité d'un centre commercial. Une bagarre éclate en marge du regroupement et de nombreuses personnes sont témoins de violence. Aucun uniforme, brassard ou autre élément pouvant identifier des keufs ne sont alors visibles. Il s'agit de deux groupes s'affrontant, point barre. Plusieurs personnes portent secours à des gilets jaunes qui sont malmenés. Des coups partent à droite à gauche jusqu'à ce qu'un flic dégaine son arme de service. Pas de bol, les mecs identifiés comme des agresseurs ou des hooligans voulant en découdre avec les gilets jaunes sont en réalité de la flicaille. L'un d'eux est même le directeur départemental de la police nationale. La police peut blesser et tuer si elle le veut des citoyens sans défense et ce avec la bénédiction de l'État et du système judiciaire français. En revanche, lever la main sur un keuf et sur un putain de gradé, qui plus est, et le gourou de l'État s'abattra sur vous. 4 personnes sur la 20aine de gilets jaunes et sympathisants ayant porté secours et défendu leurs camarades ont été épinglés et placés en détention provisoire pendant 12 jours. Lors de leur passage devant le tribunal, le juge applique une tolérance zéro et pousse même les peines au-delà des espérances du procureur. On croit rêver. Résultat, le journaliste vidéaste Stéphane Trouille prend la plus grosse peine avec 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, et 3 ans d'interdiction de manifester. Excusez-moi, ça m'énerve de le lire. De même pour les 3 autres gilets jaunes, Tom, Dylan et Maria, qui ont également été condamnés à de la prison ferme et à une interdiction de manifester. Ne paniquez pas et gardez votre calme, vous êtes bien en France, pays des droits du flic.
Il se tire, le poulet, attrapez-le. Allez, merde, rattrapez-moi ce putain d'emparé de poulet. Maniez-vous. Bougez votre cul, bordel.
Combat pour la vérité. Le 20 mai 2017, en Haute-Saône, Jérôme Laronze, éleveur bovin en bio et sympathisant de la Confédération paysanne, était abattu par un gendarme. Depuis, sa famille et ses proches se battent pour faire sortir la vérité. Un contrôle vétérinaire qui a mal tourné, voilà l'origine de ce drame. Le 11 mai, Jérôme est contrôlé par les services vétérinaires accompagnés de la gendarmerie. Ils ont pour objectif d'inspecter le troupeau avant sa saisie. En effet, Jérôme était d'après les témoignages, un personnage atypique et engagé, un mec bien quoi. Mais ça, on le sait, ça ne plaît pas trop à l'État et son administration. D'identification des vaches en retard, en papier oublié, d'obligation de suivi sanitaire non rempli en contrôle, la Direction départementale de la protection des populations, ou DDPP, qui comprend les services vétérinaires, en avait conclu qu'il fallait retirer son troupeau à Jérôme. Ainsi, le 11 mai, quand il voit débarquer ses enfoirés, Jérôme prend la fuite. S'ensuit un jeu du chat et de la souris de 9 jours durant lesquels la gendarmerie tentera de l'interpeller sans pour autant l'avoir convoqué au préalable. Le 20 mai, il est abattu de 3 balles par un gendarme alors qu'il tentait de fuir un contrôle avec sa voiture. Il mettra de longues minutes à se vider de son sang sans qu'aucun des 2 sales flics présents ne lui porte secours. La famille de la victime réclame justice et que la lumière soit faite sur cette affaire pour le moins douteuse. Après l'instruction pour, je cite, « violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », la famille dépose 2 nouvelles plaintes pour non-insistance à personne en danger et altération de la scène de crime.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
Car oui, comme dans les films de gangsters avec de sales ripoux, il est fortement pressenti que la scène de crime a été maquillée par la gendarmerie afin de faire passer ce qui serait alors un homicide volontaire pour une situation de légitime défense. Plusieurs éléments très douteux vont dans le sens d'une manipulation de la part des flics. Ainsi, 6 balles ont été tirées par les 2 gendarmes qui tentaient d'interpeller le paysan, une par la femme et 5 par son collègue. Parmi ces balles, 3 ont mortellement blessé le paysan. Sauf que, lors des investigations sur la scène de crime, seulement 2 étuis, c'est-à-dire les douilles qui tombent par terre quand ils tirent la balle, ont été retrouvés. Il en manque donc 4. Retrouver l'ensemble des douilles aurait permis de savoir si le gendarme était bien sur la trajectoire de la voiture et donc, comme il le dit, en situation de légitime défense. Or, les impacts sur la carrosserie de la voiture et dans le corps de la victime sont venus du côté droit et de derrière. Ensuite, les tirs se sont enchaînés en seulement 7 secondes. Le gendarme affirme avoir fait plusieurs déplacements dans ce laps de temps. Il aurait été d'abord devant la voiture, puis sur le côté et à l'arrière. Je cite, « Il n'a pas pu faire autant d'allers-retours en si peu de temps », estime Marie-Pierre Laronze, donc la sœur. D'ailleurs, les bris de verre retrouvés ne se retrouvent pas là où il indique avoir été tiré. Et sa déposition a évolué, maintenant il ne se souvient plus d'où il a tiré. Enfin, dernière preuve apportée par la sœur de l'éleveur sur les 2 étuis, donc les douilles, ceci n'est pas à moi, retrouvés, l'un était celui de la gendarme. Mais l'autre est plus intéressant. Il a été, donc là je cite, « retrouvé en retrait du chemin », poursuit-elle. « Je pense que le gendarme se trouvait là. » Et son avocat abonde dans ce sens-là aussi également. Afin de trancher donc entre les 2 versions et avis, l'avocat de la défense a demandé une reconstitution avec analyse balistique et tout le toutim et pour voir ce qui allait se passer, quoi. La demande a été rejetée par les 2 juges d'instruction. Autre fait choquant, les pompiers sont arrivés 25 minutes après les tirs. Entre-temps, des renforts de la gendarmerie étaient arrivés sur place alors que la gendarmerie est plus éloignée que le poste de secours, ce qui traduit un empressement d'informer la hiérarchie avant les secours. Pour autant, aucun des gendarmes n'a porté secours à Jérôme alors qu'il se vidait de son sang derrière son volant. Cet élargissement de l'instruction à l'altération de la scène de crime va permettre de questionner plus largement l'attitude des forces de l'ordre. Pour l'instant, seul le gendarme, auteur des coups de feu, est mis en examen. Désormais, la gendarme qui l'accompagnait ainsi que leur supérieur, rapidement arrivé sur les lieux, pourrait également avoir à s'expliquer. La suite lors de l'appel.
Au cheptel, qu'on maintient à l'étable. La brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille. Deviendra un modèle, une idole pour la foule. Un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cobaye. Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles. Cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal. Me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal. Avec fusil et jumelles, il faut me faire mal. Là, le journal est formel, au signal, viser la moelle. Donner la mort intentionnelle, rien n'est rationnel. La chasse est nationale, passionnelle. Prise en charge par des professionnels. Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle. Salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Et la bête, effacer sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles et ses blessures morcelles. Et elle sort elle, le crotal avec son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une morsale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et à elle seule, représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrières-salles, les nacelles, les passerelles. Les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles, ces rituels éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel, ses réflexes sont mentales. Sa pensée est bestiale, sa colère officielle. Vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. Et la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la. Ils ont lynché la curiosité tropicale. À la verticale, par les cervicales. Ils ont lynché la curiosité tropicale. Et sa fin fut sans appel et radicale. Sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale. On balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle? La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la.
Libérer la bête, yeah.
C'est ça.
Libérer. Putain, on se dit.
Et j'avais envie d'ajouter quand même pour la fin de ce papier que c'est quand même assez troublant en ce moment et que l'État, rappelez-vous, nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Voilà.
Oui. Et diminue comme ça le déficit de la sécurité sociale.
Et le CAC 40 aussi.
Il y en a plein comme ça.
Allez, vous ne savez pas quoi penser de l'actualité. Vous êtes perdus face à tant de revendications contradictoires. Rassurez-vous, la mission des médias est de vous fournir une information aussi facile à avaler qu'à régurgiter sous forme d'une bouillie d'idées insipides et inodores. Peut-être pas inodores. Démonstration par Clément.
Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, gollerie. Non, mais quoi, tu... Moi, j'en ai plein de cul super sur putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans les trois rats comme des merdes et quoi. Qu'est-ce que tu fais, quelque chose, toi, pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi, non plus. I woke
up in a girl. Venez voir! Elle-mère! Elle-mère! L'extinté en mer, fils de mon I was a prisoner too.
Yeah. Could not recognize the face. C'est fini, on t'en plus l'autre jour.
25 000 manifestants à 15h dans toute la France selon la police. Premier bilan, faites-vous de ce 8e samedi de mobilisation nationale des Gilets jaunes.
Bonsoir. D'abord, je m'étonne qu'avec les moyens dont dispose votre chaîne à travers toute la France, vous soyez malheureusement contraints depuis maintenant plus d'une demi-heure à diffuser des images de trois scooters et une poubelle incendiée. Si vous avez, et c'est votre vocation, normalement le souci de l'information, je tiens à votre disposition de multiples images des mobilisations qui se sont tenues aujourd'hui dans le pays, de la place du Capitole à Toulouse qui était pleine de cette mobilisation pacifique, des images de la mobilisation à Lille aussi où on a vu un orchestre, on a vu une fanfare de gilets jaunes se produire avec une farandole, c'était dans une ambiance tout à fait bon enfant. Donc pour répondre à votre question finalement, eh bien je vois que le mouvement s'étend et s'approfondit suite au vœu du président et suite à la fin de non-recevoir qu'il a adressé aux revendications justes des gilets jaunes. Et on peut se retrouver comme ça à commenter finalement toutes les semaines la même chose tant que le gouvernement n'entendra pas donner de réponse politique, puisque il y a 10 minutes à peine, l'un de vos intervenants sur ce plateau disait que ces manifestations, le plus gros problème, c'est qu'elles n'avaient pas de mot d'ordre. Eh bien si, il y a des mots d'ordre. Chacun peut les apprécier, peut-être certains d'entre vous ne les supportent pas, mais par exemple Macron démission, chacun peut s'en faire son appréciation, mais c'est un mot d'ordre puissant que l'on retrouve partout. De la même manière que la justice fiscale, le fait de vouloir refonder nos institutions, ce sont des mots d'ordre. Et j'aime mieux vous dire aussi que, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre positifs, parce qu'ils portent l'injonction à un changement important, et je pense que ce changement important est une opportunité plus qu'une menace, pour tout vous dire.
Merci Monsieur Catanas de contribuer à la haine ambiante contre les médias. Deux choses pour vous répondre très rapidement, et puis je vous poserai ma question suivante.
Non, pourquoi
la première,
vous me
dites c'est qu'on
non,
a, mais, on a. Attendez, non, mais laissez-moi non, terminer, s'il vous plaît. Vous, je vous ai écouté, Monsieur Catanas, je vous ai écouté, vous m'écoutez 30 vous secondes et je vous repose une question.
Je veux vous dire une chose. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui ont fait l'effort de se mobiliser, parce que pour plein de gens, se mobiliser, manifester pacifiquement, parfois se déplacer, faire des kilomètres, ça représente un effort. Puis, parce que pour certains, ils le souhaitent. Quand ils rentrent chez eux, ils allument la télévision et ils espèrent voir un retour de ce qu'ils ont fait dans la journée, qui leur a coûté parfois.
Et
c'est de l'argent même de se déplacer pour pouvoir manifester. Et vous montrer exclusivement, quasiment, d'autres choses qui ne représentent pas dans son ensemble ce mouvement. Je dis pas que vous ne devez pas montrer aussi les scènes de violence. C'est votre métier de journaliste. Mais vous devez aussi montrer ce qui se passe très bien partout dans le pays, parce que c'est de ça aussi la mobilisation des Gilets jaunes.
Ça c'était Adrien Catanins, député de la France Insoumise, qui répondait aux questions du journaliste de BFM TV samedi soir dernier après une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ça vaut des points. Alors je vais pas vous parler des Gilets jaunes, je vais plutôt vous parler des médias qui en parlent. Voilà, ce mouvement aura au moins servi à faire en sorte qu'une partie plus large de la population se rende compte que la police tue et éborgne et que les médias mentent. Oui, mesdames et messieurs, les médias mentent. Juste pour exemple, ce jour-là, vous l'avez entendu dans l'extrait, BFM, LCI, CNews et tous les autres annonçaient 25 000 manifestants dans toute la France, alors qu'à Toulouse, il y en avait strict minimum au moins 1 million... Bon, moi, pour être sérieux, il y en avait au moins 7 ou 8 000 à Toulouse, donc du coup, 25 000 en France, c'est quand même très peu crédible. Bon, alors du coup, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que les médias mentent de manière assez globale. Et je pense qu'on a aussi envie de coller des grandes tartes à ce Thomas Mistachi qui se pose en sale victime dès qu'on lui dit qu'il fait mal son travail. C'est le journal de BFM qu'on vient d'entendre. Et c'est comme les flics qui éborgnent et qui ensuite viennent chialer pour avoir des augmentations. Alors, flics, journalistes, journalistes, même combat. Bah en fait, je suis assez mitigé. Alors ouais, BFM protège ce gouvernement parce que ce gouvernement arrange les dirigeants de BFM en leur faisant des cadeaux fiscaux notamment, mais disons que oui, les grands groupes d'infos sont globalement à la botte du pouvoir et ça donne envie de se torcher avec leurs journaux. Mais est-ce que pour autant, il faut les dégager de nos manifs comme on peut dégager des fachos ou des RG? D'ailleurs, big up aux Gilets jaunes de Bordeaux qui ont dégagé samedi dernier un petit groupe de fachos qui était dans leur manifestation. Ça faisait très plaisir à voir ce petit moment. Alors ces derniers temps, on a pu voir des images de reporters en direct au sein de manifs qui se faisaient dégager plus ou moins salement par les manifestants. Bon, faut noter quand même que les seuls coups a priori qu'auraient pu prendre des journalistes ces derniers temps, c'est surtout des coups de matraque. Donc je ne vais pas décentrer le sujet et juger la pseudo-violence des gilets jaunes à l'égard des journalistes. Perso, je m'en fous qu'ils défoncent des caméras de BFM. Mais les médias mentent, alors pourquoi on les laisserait faire ?
Le journal Le Monde a identifié le garde du corps de Macron déguisé en flic dans une vidéo prise pendant la manif du 1er mai. Regarde, il s'appelle Alexandre Benalla, il aurait dû se faire jeter par l'Elysée, mais ils ont essayé d'étouffer l'affaire.
Alexandre Benalla, bon, on sait qu'il va s'en tirer parce que y a pas que les chaînes d'infos qui sont potes avec le gouvernement, il y a aussi les juges et les procureurs. Mais Benalla, par exemple, les révélations de Snowden, un autre exemple, les affaires Fillon, les mises en examen de Sarko, l'affaire Bettencourt et Woerth, Cahuzac, les Panama Papers, franchement, je pourrais citer des centaines de milliers d'autres affaires. Toutes ces affaires, sans certains journalistes, bah, personne ne les aurait su. Le journalisme d'enquête et quand même le journalisme en général, c'est pas pour rien qu'on les appelle le quatrième pouvoir. On peut aussi citer Bob Woodward, journaliste américain qui avait révélé l'affaire du Watergate et qui avait provoqué quand même la démission de Richard Nixon aux États-Unis il y a 40 ans. Pas mal quand même, un petit journaleux qui faisait juste son taf et qui a fait dégager un président des États-Unis. En fait, je crois plutôt que plus on discrédite les journaleux et moins ils ont de pouvoir. Donc ouais, les gros sacs à merde de pseudo-journalistes qui annoncent des chiffres faux, qui mentent délibérément, qui lèchent le cul des politiques de tous bords et qui font tourner des images de poubelles en feu toute la journée sur les écrans alors qu'il y a des dizaines de milliers de manifestants sur tout le territoire. Ouais, ceux-là, faut les tèche, des rédactions à coups de pied au cul et ils me feront pas chialer si tout le monde les déteste. Mais en général, quand on dit que les journalistes, c'est tous des collabos, c'est comme dire que les Italiens, c'est tous des racistes ou que les flics, c'est tous des bâtards. Ah non, pour les flics, ça marche pas par contre. And dictators
die. Despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, the people, the people, the people. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.
C'était Panda Dub avec le morceau Crazy World avec des c'était quoi, c'était des petits samples de Charlie Chaplin au milieu de The Dictator, voilà.
Bon, mais tu nous mets plus du rap
dans le contexte.
Bah non, mais vous en mettez tous, alors je me dis que les je me dis qu'il faut
il faut varier, non,
tu
bien.
M'as dit mets pas de rap, je croyais que t'allais mettre de la trappe, quoi.
Putain, mec. Ça fait quelques fois qu'on en met pas quand même.
Et oui, c'est vrai, mais écoute,
il y a pas, il y a 12 BPM après, c'est ça?
Et non, ça. Et non, ce sera la semaine prochaine.
Ouais, la semaine
malheureux.
Prochaine.
Et oui.
Oh, la semaine prochaine. Bon, allez, vous l'aurez compris, avec le même événement, on peut créer 10 actualités différentes. Tout est question de perspective. Prenons par exemple 3 mecs un peu bourrés qui défoncent une porte. La solution facile est d'en faire de dangereux casseurs. Moi, j'y vois un humour beaucoup plus subtil. Enfoncer une porte fermée au ministère de la Communication, c'est un message. Et si les CRS ont répliqué en faisant voler les matraques, il ne faut pas y voir d'abus policiers, mais simplement une différence de culture. Enfants, ils n'ont jamais compris l'humour absurde et l'ironie. Par contre, ils ont toujours adoré le théâtre de Guignol. Cette fois, c'est la marionnette en bleu qui bastonne la marionnette en rouge, ou en jaune. Eh, hey, que voulez-vous? Les enfants sont cruels!
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi!
Plus tard! Ben parce voilà. Que là, c'est la fin!
Oui!
Et
oui.
C'est la fin?
Eh ben oui, c'est la fin de cette émission, Cacapo. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi soir, 20h, ou sinon le dimanche midi, tout ça. Tout ça,
les fidèles au micro. Dimanche après,
après la messe.
Après la messe. Après la messe. Oh, c'est bien comme créneau.
C'est un bon moyen mémotechnique après la messe.
Après la messe, c'est le voilà.
Tout le monde y pense.
Sinon, ouais, c'est le lundi à 10h,
c'est ça? 22h, ouais, c'est ça, exactement. Allez, des bisous. Salut, les copains, voilà. Bisous, bientôt. Bisous.
Allez, bonne soirée,
bonne
ciao
soirée,
ciao.
Bonne fin d'appétit.
Et restez vénères.